Merci. Bonjour, vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, des notes, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui c'est Geoffroy Dudouis. Bonjour Geoffroy Dudouis.
Bonjour.
Qui êtes-vous, Geoffroy Dudouis? Puis-je démarrer tout de suite la question, tout de suite vous soumettre à la question?
Geoffroy Dudouis, chanteur, chef de chœur, charentais. J'habite à Saint-Sulpice-de-Ruffec,
dans la Charente. Charentais voilà. De naissance?
Non, pas de naissance, malheureusement. Je suis né à Paris, hein, comme trop de gens. mais je suis venu m'installer dès l'âge de mes 4 ans à Saint-Sulpice, donc je me considère comme charentais.
Et vous avez découvert notre belle Charente?
Oh bah oui, c'est mes premiers souvenirs d'enfant, oui.
Qui est devenue la vôtre aussi, la nôtre.
Bien sûr.
Et vous êtes chanteur, vous êtes chef de chœur, vous êtes compositeur, vous êtes pédagogue de la voix, parfois poète, et aussi homme politique. Comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça, dans une vie, dans une journée?
Oh là là, bah on essaye de... de garder un peu de temps pour dormir, et puis on essaye de prendre les choses avec diplomatie pour ce qui est de la politique, et puis pour le reste avec patience. Voilà.
Vous dirigez ou vous participez à l'existence de nombreux ensembles, vous pouvez nous en citer quelques-uns ou tous, comme vous voulez?
Tous, ça serait un peu long, puis j'ai peur d'en oublier, mais en tout cas, ceux qui m'occupent le plus et qu'on entend le plus souvent en Charente, c'est mon groupe d'hommes qui s'appelle Yacht, et puis le chœur de femmes Flood et Spina, qui sont vraiment les deux ensembles. J'ai envie de dire locaux, et puis une petite chorale aussi que j'anime qui s'appelle Derrière chez nous, tout près de mon village. Et puis aussi un chœur aussi, quand même le chœur des étudiants et des enseignants de musique d'Angoulême. Donc voilà, c'est pour mon travail local, c'est voilà, les quatre ensembles les
plus importants. Peut-être que vous pourriez dire quelques mots de chacun de ces quatre ensembles, en commençant par le CRENA, tiens.
Alors le CRENA, donc voilà, par lequel j'ai terminé. Donc le CRENA, c'est un grand projet de Mathias Charton, qui est le directeur des affaires culturelles à Poitiers, pour le rectorat, et qui donc a créé ce chœur régional de l'éducation nationale, pour développer l'art choral pour tous les enseignants, pas seulement les enseignants de musique, mais tous les enseignants du premier et du second degré. Et aussi avec...
Premier degré, c'est l'école, second degré, c'est collège.
Voilà, école primaire, et collège et lycée, voilà. Donc pour que aussi toutes ces populations d'enseignants se rencontrent, ce qui est trop rare à son goût et au nôtre aussi. Tous ces différents enseignants se rencontrent pour chanter. Et puis aussi toute une dimension de transmission auprès des adolescents. Donc il y a aussi l'Acadocœur que dirige Mathias, et donc moi je suis un de ses serviteurs pour le chœur d'Angoulême. Voilà. Et il y en a un dans chaque département.
Voilà, c'est là où je voulais en venir. Si c'est régional, ça veut dire que c'est décliné dans chacun des
départements. Oui, pour l'instant c'est décliné dans les quatre anciens départements Poitou-Charentes, mais on sait que le talent de Mathias risque de déborder dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.
Et puis c'est aussi s'entourer de personnes de talent.
J'espère en faire partie, au moins pour ce qu'il me demande.
Je n'en doute pas, Geoffroy, évidemment. Alors, quand on fait partie d'un ensemble, quand on dirige un ensemble, on a des orientations, des axes. C'est pour vous, travailler avec un ensemble, le diriger ou être dirigé? Est-ce que vous faites une différence ou des différences? Dites-nous tout, parce que très franchement, dans le domaine qui est le vôtre, la musique, je n'y connais pas grand-chose.
C'est vraiment une question assez vaste, mais en effet, ça, y a des grandes différences entre chanter dans un chœur où on est dirigé par quelqu'un et soi-même se retrouver chef de chœur. Alors d'avoir l'une position puis l'autre peut être très instructif pour ce qu'on aime faire et comment on aimerait le produire, mais après c'est vraiment deux positions très différentes. Et après, moi, il m'arrive une position intermédiaire qui est celle de chanter et de diriger en même temps, position que je n'adore pas parce qu'elle est quand même assez difficile, mais que j'ai parfois. Mais voilà, en effet, c'est des positions très, très différentes parce que bon, on n'a pas du tout les mêmes responsabilités, le même besoin de discipline et d'autorité quand on veut faire avancer les choses, quoi.
Finalement, vous répondez un peu à la question que j'avais prévue maintenant, et c'est bien. Qu'est-ce que diriger en musique, finalement, pour vous ?
Diriger en musique, c'est mettre en osmose, c'est dynamiser, c'est mettre d'accord ensemble tout un groupe de gens pour qu'ils fassent du beau ensemble et que ça soit satisfaisant pour tout le monde.
On parle de directeur musical, on parle aussi de chef de chœur, directeur ou chef ?
Directeur, c'est souvent on emploie ce mot-là dans les institutions ou dans les grands ensembles, quand le chef de chœur a aussi un rôle de directeur, pas commercial, mais en tout cas de représentation de l'image d'un ensemble. Donc quand on parle de directeur musical, c'est surtout pour des grands orchestres ou des grandes formations. Moi, je ne me suis jamais senti directeur. Mais chef de chœur, là, c'est le mot le plus répandu parce que là, il peut s'utiliser pour des très grands chefs de très grands chœurs à Radio France ou ailleurs, comme au petit chef de chœur qui fait son boulot toutes les semaines dans une chorale du coin. Hein.
Est-ce que l'un est plus important ou moins important que l'autre entre ces deux chefs ?
C'est selon si on pense à la postérité ou si on pense au présent. Et donc, peut-être que pour la postérité, le chef de chœur de Radio France est plus important. Peut-être que pour le quotidien, le petit chef de chœur de la chorale du coin est tout aussi important.
Mais il peut passer à la postérité aussi, ce petit chef.
On ne sait jamais.
Le chef, c'est celui qui donne une direction artistique quand même, que ce soit un ensemble grand, entre guillemets, ou petit.
Oui, ça me semble musicale. Vraiment très important. Alors évidemment, aussi, quand on monte en grade, j'imagine que dans des grandes institutions, il y a aussi des obligations qui sont faites dans les partenariats où on n'est pas toujours à la manœuvre pour exactement choisir son répertoire, mais généralement les gens à forte personnalité ou qui ont les moyens de le faire choisissent leur répertoire. En tout cas, moi, ça a toujours été mon cas, alors pas parce que je suis un grand chef, mais parce que j'ai toujours été dans des interstices qui m'ont permis d'avoir cette liberté, donc pas forcément une liberté très fameuse, mais une liberté qui, moi, m'a été très riche de pouvoir vraiment choisir les répertoires que je fais chanter.
Une liberté dans laquelle on se choisit soi-même ses contraintes, finalement.
Oui, voilà, c'est ça. J'accepte aussi les contraintes parce qu'elles sont parfois très intéressantes. Par exemple, pour le créneau dont on parlait tout à l'heure, c'est bien Mathias Charton qui nous a proposé le Stabat Mater de Jenkins pour l'année qui vient. Et donc, moi, c'est pas une musique que je connaissais auparavant. Et je vais la faire chanter avec grand plaisir.
Un Stabat Mater, qu'est-ce que c'est ça, un Stabat Mater ?
Stabat Mater, c'est un chant de l'église chrétienne, romaine, qui se chante normalement plutôt à Pâques.
Pendant les offices,
c'est, voilà, parce que donc, c'est un chant qui parle de l'état de la Vierge Marie quand elle trouve son fils crucifié. Et donc, ça a donné de l'inspiration à de très très nombreux compositeurs du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui encore.
Et donc, quand des chœurs, quels qu'ils soient, à cadeau chœur, le Crénat interprète des œuvres, d'autres chœurs aussi, le chœur de Radio France, parfois c'est des musiques qui existent depuis longtemps, parfois on parle de création.
La création, c'est a priori quand la musique n'a jamais été jouée par quiconque et qu'un compositeur la compose et qu'elle est jouée pour la première fois en public. Voilà. Alors après, on joue sur les mots, quand la création est française et qu'elle devient mondiale ou l'inverse. Mais voilà, la création, c'est ce qu'on appelle création, c'est une musique qui n'a jamais été jouée ou entendue. Bon, après, on a...
Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. La création, Geoffroy Dudouis, pour vous, c'est une aventure solitaire ou c'est une aventure collective, d'abord ?
Souvent collective, quand même. Moi, j'ai rarement fait de la musique tout seul. Hein. Enfin, puis faire de la musique tout seul, c'est possible devant un piano, devant... Mais bon, il y a bien un moment où il faut jouer avec les autres, ou en tout cas se faire entendre, et puis partager, quoi. En tout cas, moi, j'ai plutôt fait beaucoup de chant et très peu d'instruments, donc le partage et le collectif a toujours été un moteur.
Vous avez fait beaucoup de chant, donc c'est la voix qui est une de vos priorités, ou peut-être votre priorité ?
Ma priorité, c'est surtout ma possibilité, hein, parce que moi, j'ai fait la musique très tardivement, donc j'ai fait un petit peu de piano dans mes années lycée, mais vraiment d'une façon assez médiocre, enfin en tout cas très tardive, et puis qui ne m'a pas permis d'envisager de faire mon métier avec un instrument. Par contre, avec le chant, bah, j'ai senti que j'avais un potentiel et puis qu'il n'était pas trop tard à 18 ans pour travailler sa voix et rattraper le retard de la formation musicale.
Il n'est jamais trop tard, y compris en musique.
Ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend ses ambitions. Voilà.
Vous parlez de la voix, vous considérez la voix comme un instrument de musique ?
Oui, on dit souvent ça, que c'est un instrument que tout le monde possède. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez riche et fascinant. Après, voilà, c'est pas seulement un instrument, c'est aussi... c'est bien plus que ça, parce que c'est notre corps, cet instrument. Donc c'est notre esprit, notre âme, pour ceux qui pensent qu'on en a une. Et puis tout ce qui nous traverse comme émotion qui va faire vibrer cette voix. Donc c'est bien plus qu'un instrument, finalement.
Est-ce que c'est une forme de rencontre entre le corporel, le matériel et l'intellect et l'intellectuel, le chant ?
Oui, certainement. Et puis quand on chante à plusieurs avec tout l'équivalent chez son prochain aussi. Oui.
Toujours l'idée du partage et de l'attention à l'autre, c'est quelque chose qui traverse votre parcours, votre activité musicale, entre autres ?
Oui, attention aux autres, et du coup attention à soi aussi. Peut-être que c'est en commençant à faire attention aux autres qu'on fait attention à soi, c'est pas forcément toujours que le contraire.
Et ça, c'est dès le début de votre parcours qu'on retrouve cette direction, cet objectif, cette
façon
d'être.
Oui, dès mes premières rencontres avec le chant choral à mes 18 ans, ça a été l'enthousiasme du partage, de la vibration, du son, une sorte d'allégresse comme ça, simple.
Vous parlez de vous comme quelqu'un qui a connu une enfance de non-musicien. Qu'est-ce que ça veut dire, non-musicien ?
Bah, non-musicien qui n'a pas joué de musique, sauf de façon un peu aléatoire. Donc il y avait beaucoup de musique à la maison, dans le poste et sur le tourne-disque. Hein. Et puis avec un père peintre en bâtiment, forcément il était chanteur. Donc il chante encore. Et donc oui, j'ai eu une enfance mélomane, on va dire. Et puis pas tout à fait inculte en termes de répertoire musical. Mais quand même dans un répertoire très populaire, très... Enfin voilà, Brassens, Brel, Renaud, voilà... Anne Sylvestre.
Chanteur à texte ?
Plutôt chanteur à texte et en français, parce que mon père ne parlant pas, ni ma mère ne parlant anglais, voilà, j'ai attendu le collège et le lycée pour les Beatles et Velvet. Quoi.
Alors une enfance de non-musicien, mais vous êtes devenu musicien, donc malgré tout, vous avez une part de vous qui est de domaine de l'inné, quand même, peut-être, mais aussi du domaine de l'acquis. Quelle est la part de l'inné et de l'acquis dans votre parcours de musicien ou chanteur ?
Vous avez 2 heures, peut-être, maintenant. Pourcentage ou une dissertation ? Ouais, moi, j'aime pas trop cette idée de l'inné. J'ai un problème avec cette idée. Moi, je pense que c'est tout est travail. Voilà. Mais bon... voilà, l'idée du don me gêne parce que ça voudrait dire que tout le monde serait prédestiné et je trouve pas ça très catholique comme idée. Je pense que le don qu'on a, c'est celui qu'on cultive, en fait. Et après, ce qu'on appelle le don, c'est peut-être l'attention qu'on a à reconnaître qu'on a des capacités. Voilà, donc mes parents ont su assez tôt reconnaître que j'avais, alors peut-être qu'il appelait ça un don, mais en tout cas une appétence pour aimer la musique et en faire un peu. Et puis après, je me suis rendu compte par moi-même qu'en effet, j'étais capable d'en faire.
Donc la musique, c'est pour tout le monde, alors ?
Ah bah, de préférence, oui.
Et le chant en particulier ?
Et le chant en particulier, parce que ça ne demande pas un gros investissement pour acheter l'instrument. Et puis surtout aussi que on peut faire de la musique avec très peu de technique avec le chant. Voilà. Et on peut se permettre de ne pas être parfait en chant, ce qu'on pardonne moins à un violoniste ou un pianiste.
Ah, comment ça ?
On peut être ému par une très belle voix, enfin par un très beau chant, sans que la voix soit superbe. On a beaucoup d'exemples, même avec des gens qui vendent beaucoup de disques. Hein. Je ne citerai pas de nom pour n'offusquer aucun fan, mais bon, on connaît tous des très grands chanteurs qui ont des vilaines voix. Voilà. Donc,
et qui font passer des émotions. Et qui font passer des.
Je parlais de Renaud tout à l'heure, je suis fan de Renaud. Donc voilà. Voilà, moi j'ai écouté Renaud toute mon enfance. Bon, j'aime pas trop les dernières années, mais le Renaud des années 70-80, je trouve que c'est un formidable chanteur, et pourtant, Dieu sait qu'il chante mal.
Je vous laisse l'appréciation, je n'en prends aucune responsabilité, même si on peut partager des avis ou être contre, pourquoi pas. Votre parcours est fait, vous dites, de découvertes fortuites. Donc c'est par hasard que vous êtes devenu chanteur ?
Oui, alors si je crois pas aligné et puis que je crois au hasard, on va me prendre pour un... y a pas de hasard, mais bon, y a des rencontres, quoi, et on peut les prendre pour des hasards ou des prédestinations ou des dons de tomber du ciel, enfin voilà, chacun son intuition. Moi, c'est des rencontres qui ont fait que j'ai pris ce chemin alors qu'il n'était pas du tout celui que j'avais imaginé enfant ou prévu à la fin de mon adolescence.
Qu'est-ce que vous aviez imaginé?
Très petit, être footballeur professionnel, après gagner le Tour de France, et puis un peu plus raisonnable à l'adolescence, être prof d'histoire géo parce que j'étais un fan de géographie.
Quelque part, la musique et l'histoire, même la géographie, c'est lié, forcément.
Oui, bien sûr, ça me sert encore aujourd'hui.
Alors si je vous dis un mot qui peut-être méritera une explication, c'est microcosmos, le mot. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, microcosmos?
Microcosmos, ça évoque un des chœurs avec lequel j'ai débuté mon parcours musical, donc c'est des moments musicaux très très riches, très émouvants aussi, enfin, qui ont vraiment fondé tout mon parcours qui allait suivre. Et puis ce nom a été piqué entre guillemets aux célèbres pièces pour piano de Bartok.
Bartok qui était un compositeur, musicien.
Voilà, un compositeur hongrois du début du XXe siècle.
Béla Bartok, oui, voilà. Qu'on aurait pu écouter aussi, mais finalement on va écouter quelque chose qui ramène à Bach. Quel est le titre de la chanson que vous avez choisi?
Alors j'ai choisi Immortal Bach parce que c'est un de mes premiers grands frissons en tant que chanteur et j'aime le faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas cette musique.
Eh bien écoutez, on va en écouter au moins un extrait, puis on en parle juste après. Voici de Microcosmos, interprété par Microcosmos Immortal Bach. Qu'on a entendu, Geoffroy Dubruy, pouvez nous expliquer, nous parler de cette œuvre?
C'est une pièce contemporaine qui a été beaucoup chantée ces 20 dernières
années. Contemporaine, pourtant, au début, on n'a pas l'impression que c'est contemporain.
Mais oui, alors au début, c'est un compositeur norvégien qui s'appelle Knut Nystedt, qui est décédé il y a quelques temps maintenant, qui a réécrit un choral de Bach, enfin dans le style de Bach en tout cas, et qui a eu la délicieuse idée de donner le pouvoir au chœur ensuite de chanter sans aucun tempo. Et ce qui fait que chaque choriste chante à son tempo la ligne qu'on a chantée dans un premier temps, bien sagement, comme on l'a entendu. Donc ça crée des effets sonores et acoustiques, surtout quand on chante dans des réverbérations un peu spéciales. Voilà, c'est une pièce vraiment formidable que beaucoup de chœurs ont chanté ces 20 dernières années.
Et notamment Microcosmos avec Lloyd Pierre,
voilà.
à sa direction, le chef de chœur ou le directeur musical.
Oui, il est un peu les deux. Bah oui, Lloyd Pierre, c'est une des personnes avec qui j'ai commencé la musique et qui, justement, par les choix de répertoire qu'il a fait, m'ont ouvert les oreilles et beaucoup d'horizons pour faire ensuite mon propre chemin. Oui.
En fait, Lloyd Pierre, très souvent, on le qualifie... je ne sais pas qui, de trublion de l'art choral hexagonal, parce qu'il propose des choses inhabituelles, inattendues, surprenantes sûrement, c'est ça?
Oui, il est très marqué par le théâtre et la mise en scène, donc aujourd'hui son travail est fortement dirigé dans ce secteur-là, peut-être encore plus qu'il y a 20 ans quand j'ai chanté avec lui, et toujours entouré de troupes de pleines de jeunesse et de fougue aussi, et puis avec un niveau musical et vocal qui a sérieusement progressé depuis 20 ans. Donc c'est vraiment un très beau travail en France. Ouais.
Et il fait partie de ceux qui essaient de transmettre et de promouvoir cette originalité, notamment à Châteauroux.
Oui, bah donc la chorale Microcosmos, c'était une chorale de collège à Vierzon, exactement. Et à Châteauroux, c'est là où a lieu le Festival de la Voix tous les ans. Donc Loïc Pierre, ça fait quelques décennies maintenant qu'il se voue corps et âme au chant choral.
Alors c'est l'occasion pour nous de saluer les Castelroussins qui peuvent nous écouter sur, pas sur les ondes, mais qui peuvent nous écouter avec l'ordinateur. D'autres rencontres. Si je vous dis de nous dire ce qu'est Tapiola, qu'est-ce que c'est Tapiola ?
Bah, Tapiola, c'est le nom d'une ville dans la banlieue d'Helsinki, tout simplement, qui a donné son nom aussi à...
Helsinki, en Finlande.
En Finlande, voilà, Helsinki, capitale de la Finlande. Et donc, en Finlande, qui n'est pas en Scandinavie, donc, c'est un pays où on chante beaucoup, il y a une tradition chorale très très forte, et donc dans cette petite banlieue d'Helsinki... qui a donné aussi son nom à un poème symphonique de Sibelius, hein, pour ceux qui sont férus de musique classique. Mais il y a un chœur qui a été créé dans les années 60 ou 70, un chœur de jeunes vraiment formidable, et que j'ai pu voir en France à l'abbaye de Sainte en 2000, et qui a été un des grands coups de cœur en concert de toute ma vie, je pense. Certainement un des trois plus grands concerts que j'ai vus, avec une énergie vocale et musicale incroyable, et puis là aussi j'allais dire un chef de bord, parce que le chef de chœur est tellement invisible dans ce chœur que c'en est incroyable. Kari Ala Polanen, qui est
invisible, c'est-à-dire
qui sait se faire discret et mettre vraiment en avant ses interprètes et pas lui-même, et ça c'est assez rare finalement aussi, et lui il arrive à le faire d'une efficacité si incroyable que vraiment, enfin, j'ai encore ce concert dans les oreilles, et surtout l'état dans lequel j'étais en sortant de ce concert.
Est-ce qu'on peut parler d'équilibre atteint et très visible entre les artistes qui chantent, et notamment dans le domaine de la liaison ou du lien entre l'effort pour chanter et le plaisir de chanter ?
Ouais, alors l'effort dans le tapis à coyeur, on ne le voit pas du tout, on voit juste la joie, quoi. C'est ça qui est très fort, parce que le répertoire est souvent très difficile, les voix sont parfaites, de 6 à 18 ans, tous les gamins et gamines qui chantent là-dedans sont vraiment au top. Et pourtant, on n'a pas une ambiance de Star Academy, les enfants sont vraiment dans une joie simple, dans le bling-bling, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très profond et qui marche de façon vraiment excellente, quoi. Donc, j'ai pas vu d'effort, moi, quand je les ai entendus en concert.
On peut parler d'éducation artistique ?
Ah bah complètement, c'est vraiment le projet au Tapiola Choir, hein. C'est vraiment des gens qui forment des enfants à devenir des adultes, et des adultes musiciens de préférence, mais en tout cas que la musique soit quelque chose qui les fait grandir dans l'exigence, la discipline, et puis surtout le partage. Voilà.
Le partage et la rencontre encore.
Je pense que c'est un peu l'alpha et l'oméga. Hein.
Cette aventure du Tapiola Choir, elle parle de l'école ? Ou pas ? Ou d'un quartier d'une
Elle
ville ?
Elle parle d'un quartier d'une ville. Alors, je ne sais pas s'il y a des liens avec l'école là-bas, sachant que le système scolaire finlandais est très souvent vanté, y compris en France. Mais en tout cas, oui, c'est une chorale de quartier. Hein, donc, ce n'est pas du tout un recrutement national qui se fait. C'est vraiment les enfants du quartier qui viennent chanter dans cette chorale, on pourrait dire. Mais bon, c'est la plus belle chorale du monde, quoi. Voilà.
À ce point-là ?
En tout cas, en chœur d'enfant, moi, je n'ai jamais entendu quelque chose d'équivalent.
Et depuis les années 60, c'est continu cette qualité, c'est-à-dire qu'il y a des relais qui sont pris entre
oui,
les chefs.
Oui, il y a une continuité quand même, parce que je pense qu'il n'y a eu que trois chefs hein, dans les 30 ans. Donc le créateur dont j'ai perdu le nom, Kari Ala Polanen, qui a pris sa suite, que j'ai connu moi, et puis maintenant c'est une autre personne qui a pris sa suite. Mais voilà, il y a une continuité et puis voilà, une reconnaissance internationale. Hein. C'est un chœur qui fait trois tournées internationales par an.
Je crois que le fondateur, c'était Erkki Pohjola.
Vous êtes vraiment encore mieux renseigné que moi.
Et si je vous dis que c'est une bande de coquins, ces chœurs, ces choristes, parce que ce que vous allez nous faire entendre, c'est, si je traduis, c'est les jeunes coquins du village de Arma.
Oui, c'est un arrangement assez contemporain d'une chanson traditionnelle.
D'accord, eh bien nous allons nous écouter quelques notes, puis vous nous en parlez plus précisément. Oui. Autre chant, autre âge de chanteur, autre technique utilisée par rapport à ce qu'on entendait tout à l'heure, non ?
Ben oui, moi c'est ce qui m'a toujours beaucoup plu dans ce chœur et qui, voilà, qui n'a jamais été égalé et qui sera jamais égalé, je pense aussi, c'est ce, cette capacité à n'avoir aucun doute et aucun scrupule à faire chanter les enfants en voix de poitrine, quoi. Ce qui est un truc un petit peu...
En voix de poitrine, oh là là, oui. Qu'est-ce que vous nous dites là ?
Ah bah, c'est un peu technique, mais voilà, on a deux façons, on a deux mécanismes particuliers dans la voix, qui sont la voix de tête et la voix de poitrine, et souvent on fait chanter les enfants dans les chorales ou les maîtrises ou dans les écoles en voix de tête, arguant du fait que c'est la seule façon correcte de chanter juste et de chanter bien ensemble, et ce postulat est faux, voilà.
Vous vous élevez contre.
Bah oui, enfin, j'ai bon dos de m'élever contre, mais... En l'occurrence, c'est un postulat qui n'est pas du tout assez questionné et qui fait qu'on laisse chanter les enfants en voix de poitrine dans les stades et dès qu'ils sont à l'école, il faut absolument qu'ils chantent en voix de tête. Et je peux comprendre le volet éducatif de la chose. Hein. Chanter en voix de tête et savoir le faire, c'est très important aussi. Hein. Mais on se coupe aussi de racines et de valeurs expressives en oubliant de faire chanter les enfants en voix de poitrine.
Alors les racines, c'est aussi la transmission du patrimoine musical et on vient d'avoir un bel exemple finalement.
Ah ben oui, en Finlande et puis dans tous ces pays-là, donc Baltes et puis Scandinaves aussi, on a vraiment le goût pour ça. Et en France, bon, pour d'autres raisons, on s'en sert d'une façon un peu plus folklorique, quoi.
Et on aura peut-être quelques exemples tout à l'heure.
Peut-être,
hein, dans les choix des œuvres que nous avez réservées. Tapiola. Alors Tapiola, c'est le nom de plusieurs réalisations en rapport avec Tapio. Tapio, c'était, je crois, le dieu de la mythologie finlandaise, une divinité de la forêt. Mais c'est aussi, vous le disiez, une composition d'un musicien finlandais, Jean Sibelius. La ville nouvelle construite sur la commune d'Espoo en Finlande, voilà. Et c'est d'où vient le chœur, c'est là où il a été créé. C'est aussi une station du métro Helsinki, c'est un orchestre finlandais, et puis c'est une banque finnoise. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Oh, belle question, c'est la Tapiola Bank.
Bon.
On change d'âge de chanteur et on parle de Singer's Childhood. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre que vous avez choisie comme la troisième à nous faire entendre ?
Alors là aussi, j'ai choisi, bon, tout ce que je vous fais entendre ce matin, c'est des choses qu'on n'entend nulle part, en fait, enfin, ou très rarement. Donc, merci à votre radio de permettre peut-être à des gens d'avoir des petits coups de cœur comme ça sur des choses tout à fait inconnues ou en tout cas très rarement entendues. Et donc là, j'ai choisi un compositeur estonien qui, là aussi, lui a passé toute sa vie à arranger, à harmoniser, à mettre en chœur des chansons estoniennes. Voilà.
Ce compositeur, c'est Veljo Tormis.
Veljo Tormis, oui, donc un compositeur malheureusement qui est décédé, lui aussi décidément. Il y a beaucoup de morts dans ma liste, dans ma playlist.
Mais la musique est immortelle.
Mais la musique est immortelle, vous allez l'entendre. Et puis lui aussi, il a fait partie de mes coups de cœur quand j'ai commencé la musique, quand j'ai vu comment il déployait les harmonies, comment il arrivait à magnifier des mélodies toutes simples, et puis comment aussi il avait fait œuvre de transmettre et surtout faire survivre la culture estonienne populaire, chose qui n'était pas aisée, vu qu'il est né en 1932 ou 33, je crois, donc autant dire qu'il a passé toute sa vie quasiment en URSS, donc chanter dans sa langue et promouvoir cet art-là, c'était aussi un combat assez fort finalement.
Il disait, ce n'est pas moi qui utilise la musique folklorique, c'est la musique folklorique qui m'utilise. Comment vous pourriez commenter, si j'ose dire en quelques mots, cette formule ? Ce n'est pas moi qui utilise la musique folklorique, c'est la musique folklorique qui m'utilise.
Oh bah c'est... Bon, c'est un aveu d'humilité assez fort de sa part, je trouve, et assez poétique aussi, parce que, bon, évidemment, les arrangements, c'est lui qui les a écrits, mais voilà, c'est une position qu'il prend par rapport à un répertoire multiséculaire, quoi, et je trouve que sa position, là, est vraiment très belle.
On écoute quelques notes de cette œuvre.
Bye.
Autre œuvre, autre compositeur, estonien celui-ci, autre environnement sonore, musical, vocal. Quelle voix chante là ? Qu'est-ce qu'on entend comme genre de voix ?
Bah là, c'est un chœur de femme. L'arrangement est fait pour un chœur de femme, donc on entend une voix soliste et puis un chœur derrière qui peu à peu fait rentrer des nappes. On a entendu un petit extrait, mais c'est une pièce qui dure 3-4 minutes.
Hein. Oui, oui.
Mais c'est pas les temps de la radio, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un chœur de femme qu'on a entendu.
Alors, vous m'avez parlé de nappes, c'est ça ?
Oui, de nappes, en tout cas de notes tenues, de bourdons, on peut appeler ça aussi comme ça, qui s'accumulent au fur et à mesure du déroulement de la chanson.
Et comment est-ce qu'on fait pour tenir longtemps une note, ou aussi longtemps une seule note ?
Oh, bah, on s'entraîne.
Là encore, c'est du travail.
Oui, voilà, là, je n'ai pas d'autre...
Travail de respiration.
Voilà, là, il n'y a rien d'inné, tout est dans l'acquis. Là.
Oui, ouais. La respiration qui peut être...
La respiration, l'oreille, la concentration, et plein de choses.
La posture, etc., mmh. etc., etc. Si on parlait d'un changement avec change.
Ben voilà, ils sont retrouvés. Alors là, c'est un peu un croisement entre le Quatuor Méliade, donc un quatuor de superbes chanteuses qui sont des amies et qui ont chanté avec moi ou juste après moi.
On a des amis dans le domaine de la musique ?
Oh oui, quand même. Enfin, on essaye quand même. Si on n'a pas d'amis en musique, c'est un petit peu dommage. Puis surtout, si on n'en a pas en musique, je ne vois pas comment on peut en avoir ailleurs. Oui, c'est un quatuor de superbes chanteuses qui existe depuis bien longtemps maintenant et qui a enregistré des pièces de Thierry Machuel, qui est un super compositeur aussi, qui a été une de mes grandes rencontres au début de mon parcours et qui est un compositeur très connu maintenant dans le milieu choral et qui a même fait partie des œuvres au baccalauréat musique d'il y a 3-4 ans, je crois. Donc voilà, c'est un compositeur connu et reconnu maintenant. Et il a écrit des pièces sur des poèmes anglais de Kathleen Raine, je ne sais pas si je prononce bien son nom, j'imagine que non, qui a écrit le Royaume Invisible. Et donc, sur ses poésies, il a écrit cette pièce Change que chante ce quatuor.
Et ce quatuor, il fait appel à plusieurs compositeurs, je crois, donc il passe des commandes.
Oui, voilà, c'est vraiment, ces quatre filles-là se sont vraiment spécialisées dans la commande des compositeurs qui écrivent spécifiquement pour elles. Et donc, bon, elles ont le talent pour ça aussi, pour faire appel à des compositeurs qui peuvent écrire des choses faciles ou difficiles, extravagantes ou assez classiques, mais bon, c'est un quatuor d'exception en termes techniques et puis vocal, pour moi, c'est parfait, quoi.
Et quand on passe une commande à un compositeur, qu'est-ce qu'on lui demande ? Qu'est-ce qu'on peut lui demander ?
Bah, on lui demande de respecter quelques limites. Alors, plus on est fort, moins il y a de limites, hein, mais... Et puis après, on lui propose des textes ou un thème ou une durée aussi parfois. On lui demande combien ça coûte aussi. Si c'est un compositeur, il faut le payer. Donc,
les compositeurs sont des gens dont le métier est d'écrire.
Oui, alors ceux qui arrivent à être compositeurs 100% de leur temps, il y en a très peu, mais ceux qui sont compositeurs sont souvent des fois aussi professeurs de musique par ailleurs, ou chanteurs eux-mêmes, ou chefs de chœur aussi des fois. Mais quand c'est des grands compositeurs comme Thierry Machuel, oui, il y a un devis. Donc si on demande 10 minutes de musique, ça ne coûte pas pareil que 2 minutes. Voilà. Donc la durée est importante.
Vous êtes bien sur RDC pour Donnez-nous vos notes. RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4, 92.5 pour la région de Saintes. Et on reçoit aujourd'hui Geoffroy Dudouy, qu'on entend et qu'on découvre avec plaisir sur les ondes de RDC, même s'il travaille depuis plusieurs années déjà en Charente, dans le domaine de la musique, du chant en particulier. On parlait donc de Thierry Machuel, un compositeur qui a répondu à la demande du Quatuor Méliade. On écoute quelques notes de cette œuvre, puis Geoffroy vous en parler un petit peu.
Sit
On vient d'entendre donc un extrait de cette œuvre de Thierry Machuel, Change, par le quatuor Méliade. Méliade, qu'est-ce que c'est ce mot ?
Bah, apparemment, oui, c'est des divinités qui auraient un lien avec la musique. Alors, j'avoue qu'en mythologie grecque, je suis un peu nul. Mais oui, il doit y avoir un lien avec des divinités sonores, j'imagine.
Oui, et puis qui, je crois, protège les enfants, protège les troupeaux à l'ombre des arbres, parce qu'à l'ombre des frênes notamment, hein, d'après ce que j'ai pu trouver ici ou là. Donc les quatre chanteuses sont des Méliades, donc c'est la protection maternelle peut-être qui a fait...
Ah, ça faudrait leur poser la question, je ne sais pas comment ça leur est venu, mais oui, elles le portent très bien en tout cas.
Si elles nous entendent, qu'elles sachent qu'elles sont forcément invitées quand elles le pourront dans cette émission, peut-être avec vous encore une fois, pourquoi pas. On entre ici donc dans le domaine du quatuor. Quatuor, c'est quatre. Oui. Ici, c'est quatre voix de femmes, c'est oui. Ça ? Ce sont quatre voix à la même hauteur. Comment est constitué ce quatuor-là ?
Non, alors ce quatuor, il était plutôt constitué d'une alto, une mezzo et deux sopranes, c'est-à-dire deux voix aiguës de femmes, aiguës ou très aiguës.
Alors, ce sont les sopranos, ça, c'est ça ?
Voilà, et puis la mezzo, donc en italien, du milieu, donc voix qui sait aller dans l'aigu, mais qui sait aller aussi un peu dans les graves, et alto, qui est plutôt une voix grave de femme, voilà.
Et il y a d'autres compositions possibles pour un quatuor vocal ?
S'il est mixte, oui. Pour un chœur de femme, on peut chanter à quatre sopranes, mais c'est un peu plus triste si on n'a pas de grave. On peut chanter à quatre voix d'alto, mais dans ce cas-là, on change peut-être un peu de répertoire. Enfin, tout est possible, hein, tout est dans la nature. Hein.
Bien sûr. Et la rencontre, c'est la musique, là encore, bien sûr.
Voilà, c'est vraiment question de style aussi.
Vous nous parlez de votre itinéraire comme artistique, bien sûr, mais singulier à défaut d'être original. J'aime beaucoup cette formule, mais... Vous nous en dites trop ou pas assez, qu'est-ce que ça veut dire ? Un itinéraire artistique singulier à défaut d'être original.
C'est peut-être un peu prétentieux de dire que je suis singulier, mais en tout cas c'est ce que je cherche à être. Après, est-ce que j'y réussis ? Je ne sais pas. En tout cas, singulier dans le sens que justement j'essaye de faire découvrir des musiques que je pense trop peu de gens connaissent, souvent des musiques qui m'ont fait vibrer ou que j'ai envie de faire connaître, voilà. Et puis après un itinéraire où j'ai peut-être par faiblesse je ne me suis pas consacré à une seule chose mais par intérêt, appétit, enthousiasme je me suis intéressé à plein de choses différentes avec lesquelles j'essaye de faire sens et de faire lien entre les musiques médiévales, entre l'art choral, entre les musiques traditionnelles, entre la création et les musiques anciennes, enfin voilà, entre chanter, diriger, écrire parfois de la musique, écrire parfois des poèmes, et puis mon engagement politique aussi, qui peut paraître diamétralement opposé à la paix que je cherche dans mon métier, aussi c'est de marier les contraires, de marier les différences, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Après, voilà, donc singulier, mon parcours, je pense qu'il l'est, ayant commencé tard la musique, des choix que j'ai faits, de me réinstaller à la campagne pour être intermittent du spectacle aussi, ça c'est un choix un peu singulier. Après, quand je dis à défaut d'être original, parce que je suis pas un créateur... dans le sens que je ne révolutionne pas l'art de la composition chorale, je révolutionne
pas encore, mais peut-être que ça va venir.
Non, mais je pense que j'ai pas les outils pour ça, et puis j'ai pas cette prétention. Enfin, en tout cas, je suis pas. Je pense que je suis à ma place en étant singulier, alors que je vois pas comment je pourrais être original. Voilà.
Finalement, vous vous intéressez à beaucoup de choses à l'intérieur de la musique et en dehors de la musique.
Bah oui, c'est comme ça que c'est intéressant.
Est-ce que vous intéressez à toutes les choses de la terre?
Ah oui.
Toutes les choses de la terre, c'est le titre de l'œuvre que vous avez choisi de nous faire entendre. C'est une musique de Florian Bonneau sur un poème d'Anne Perrier. Et quelque part, ça illustre ce que vous venez de dire, c'est la rencontre de deux écritures, celle des mots, des phrases et des notes. Voici toutes les choses de la terre. Alors qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on entend, Geoffroy? Dites-nous.
Ah bah ça c'est un moment, c'est une pièce qui a quelques années maintenant, mais c'est, ça c'était un projet que j'avais initié en tant que chef de chœur, de demander à une dizaine d'amis et compositeurs d'écrire sur des poèmes écrits par des femmes pour un chœur de femmes. Et donc j'avais commencé ma tournée avec Florian Bonneau, donc un très bon ami chanteur, et qui avait composé cette pièce sur ce poème d'Anne Perrier pour nous, spécialement. Donc on en avait fait la création qu'on avait immédiatement gravée sur disque.
Ah donc ce disque existe encore ?
Ce disque existe encore, on en avait tiré 2000 je crois à l'époque, donc oui il nous en reste. C'était, voilà, on n'imaginait pas que le CD allait décéder. Mais on en a quand même vendu quelques-uns de ce Naviguer le ciel, c'était le nom de l'album. Et puis donc c'était, c'était une très belle aventure. Et le
groupe qui chante avait un nom ?
Oui, donc il s'appelait L'heure incandescente. Alors c'était assez prémonitoire parce que ça a duré peu longtemps. C'est-à-dire que ce groupe s'est constitué avec d'anciennes chanteuses de Primo Lucci, qui était un groupe amateur que j'avais dirigé à Poitiers dans mes jeunes années étudiantines. Et puis avec quelques amis professionnels qui nous avaient rejoints, on avait enregistré ce disque-là. Et ça a été un peu un one-shot, hein, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire on a fait deux week-ends de répétition sur les créations de ces compositeurs, une semaine d'enregistrement, une petite dizaine de concerts à suivre, et puis voilà, pour des raisons, plein de raisons d'organisation, d'argent aussi, hein, faut bien le dire. L'idée c'était de laisser une trace de ce travail de chant choral avec un chœur amateur et professionnel, et puis avec des jeunes compositeurs ou des gens qui ne sont pas compositeurs professionnels mais qui avaient composé de très belles choses, et surtout sur une poésie que je voulais faire entendre aussi, une poésie contemporaine.
On est toujours dans le domaine du partage. Comment est-ce qu'on partage ou on fait partager la musique, les mots qu'on écrit? Le compositeur, peut-être que ça vous arrive, il met en musique des mots, un poème. Comment il peut faire? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Vous voyez, je sais pas, dans son âme, dans son corps, dans son cœur?
Ah bah, j'imagine que c'est différent pour un peu tout le monde. Pour ce qui me concerne, la musique, j'en écris seulement quand je sais pour qui je l'écris. J'écris jamais de musique abstraite. Quand j'écris pour un cœur, c'est un cœur qui me l'a demandé. Et donc ça me permet de savoir pour qui je vais écrire. Justement, on en revient au cahier des charges qu'on demande à un compositeur. Combien sont les chanteurs? Quels sont leurs niveaux? Qu'est-ce que cherche le chef de chœur? Voilà. Donc il y a toujours ces questions très techniques en fait, hein, qui viennent peut-être même avant l'inspiration. Et puis après l'inspiration, elle est matinée de nos idées. Et puis est-ce qu'on peut être vraiment toujours original? On est aussi tout à fait baigné dans notre imaginaire musical et qui lui se berce de tout ce qu'on a écouté auparavant.
Donc en lien avec la formation que vous avez reçue, suivie
Oui, moi je pense que composer, c'est se souvenir en fait. Enfin, on se souvient, on malaxe, on mélange et il en sort quelque chose de nouveau, mais c'est difficile de penser qu'on est complètement original.
Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. Alors faire de la musique, interpréter de la musique, écrire de la musique, c'est le résultat, vous nous disiez, d'un parcours de formation, bien sûr. Et vous avez forcément des exemples, des maîtres que vous avez suivis, qui vous ont initié, qui vous ont orienté, qui vous ont expliqué, qui ont imposé peut-être. Dites-nous tout.
Bah oui. Alors moi du coup je crois pas à l'inné, mais je crois aux maîtres par contre. Enfin, aux gens qui, pas forcément d'une position surplombante ou très autoritaire, mais qui par leur exemple nous inspirent, quoi. Donc le tout premier pour moi ça a été Manuel Collet, l'accord universitaire de Poitiers. Voilà, qui est toujours un ami et qui a été vraiment celui qui m'a décidé à faire de la musique, pour sûr. Et puis ensuite, on en parlait tout à l'heure, Loïc Pierre à Microcosmos, ça c'est sûr que ça a été une rencontre très importante et fondatrice aussi. Et puis ensuite, Laurence Equilbet au Jeune Chœur de Paris, une grande musicienne, aujourd'hui plutôt tournée sur la direction d'orchestre, mais qui a été aussi une rencontre édifiante pour moi. Où j'ai vu à l'œuvre une très grande artiste et une très grande force musicale, et une très grande force aussi pour mener un groupe et pour avoir des exigences au top niveau, même avec des gens qui s'y prennent comme des manches, quoi. Enfin, c'était mon cas à l'époque. Hein.
Donc, vous parlez de vous, donc.
Oui, parce que
faut t'avouer à moitié pardonné.
Oui, non, mais mes débuts en chant choral ont été possibles parce que j'avais une voix de ténor qui chantait à peu près juste, mais sans aucune formation. Donc j'ai pu le faire parce que à l'époque c'était assez rare d'avoir des ténors qui chantent dans les chœurs. Et donc j'ai pu me hisser dans des chœurs de très haut niveau sans moi-même en avoir le niveau personnellement. Ça, j'ai aucune honte à le. Enfin, ça a été ma chance, quoi. Et ça a été ma chance, du coup, de pouvoir chanter avec des chefs de cette trempe. Et donc, et Laurent Sekilbé, c'est un moment important aussi de mon parcours.
C'est ce que vous appelez l'itinéraire d'un enfant gâté, en parlant de vous, alors.
Oui, bah oui, parce que c'est vrai que tout m'est tombé un petit peu tout cru dans le gosier, en tout cas pour ce qui est du début, hein, parce qu'après cette période d'initiation et d'enthousiasme échevelé, il a fallu se mettre sérieusement au travail pour avoir des qualités, pas seulement à l'intérieur d'un groupe, mais personnellement. Si on veut en faire son métier, en tout cas, ça paraît un petit peu incontournable.
Alors j'ose dire qu'on passe d'un ténor moyen, médiocre, à un chanteur professionnel. Alors comment...
Oui, ça ne s'est pas fait tout seul.
À l'autre, bien sûr.
Oui, enfin, je ne dis pas que j'étais un ténor médiocre, parce que je pense que j'avais déjà un sens de la justesse et puis du placement de la voix pas tout à fait nul au départ. Hein. Je chantais juste, ce qui était déjà une grande chance aussi. Mais oui, après le travail, il a duré 10 ans hein, derrière pour arriver à pouvoir chanter seul et trouver que ça valait le coup d'être vendu.
Et on a un peu de mal à imaginer justement ce travail. Qu'est-ce que c'est ce travail? Quelques exemples? Quelques illustrations?
Le travail, c'est tous les jours chanter, tous les jours faire des exercices. Pour ma part, rencontrer beaucoup de chefs de chant et de profs de chant avant de trouver ceux avec qui j'arrivais à faire des progrès. Donc là, j'en ai épuisé plus d'un prof de chant. Plusieurs dizaines même. Et donc c'est un travail aussi de remise en question de soi, de quelle image on croit donner avec sa voix, l'image qui nous est vraiment rendue et qu'est-ce qu'on arrive à faire, la conscience qu'on a de soi, de la qualité musicale de ce qu'on fait ou au contraire de son imperfection. Et ça c'est un temps de conscience de soi qui prend forcément plusieurs années.
Et comment on peut se rendre compte des progrès qu'on fait?
Le plus cruel, c'est de s'enregistrer. Hein. Là, on était fixé dans la minute. Hein.
Oui, à condition d'avoir les oreilles ouvertes.
Oui, alors après, on peut être dans le déni pour plein de choses, et y compris pour la musique. Hein, mais généralement, quand on s'enregistre les premières fois, sa voix parler ou chanter, généralement, on a un petit haut le cœur assez dévastateur.
On dit on n'aime pas, on ne s'aime pas, on n'aime pas.
Ou on ne se reconnaît pas, même on a du mal à reconnaître que c'est nous.
Avec Laurent Sekilbé, c'était le Jeune Chœur de Paris, c'est ça?
Voilà, le Jeune Chœur de Paris, c'était l'école de jeunes chanteurs qu'elle a initiée dans les années 90 et qui est devenue maintenant une institution au Conservatoire de Paris, rue de Madrid, voilà, qui continue à former des générations de chanteurs et de choristes.
Alors, Microcosmos tout à l'heure, le Jeune Chœur de Paris, on peut passer de l'un à l'autre ou les deux ensemble?
Alors, il y en a qui font. J'ai plein d'amis qui ont fait les deux ensemble. Hein, je ne sais pas comment ils faisaient en termes d'emploi du temps. Moi, j'ai fait l'un puis l'autre. Donc, j'ai fait mes armes au Microcosmos et après, par infidélité, je l'avoue. Je suis passé au Jeune Chœur de Paris, parce que aussi, pour moi, c'était une progression logique, en fait, pour chanter aussi des répertoires un peu plus classiques, ce qu'on faisait trop peu à Microcosmos. Bon, à Microcosmos, j'ai appris plein de choses sur la musique contemporaine, et ça vaut tout l'or du monde, mais voilà, avec le Jeune Chœur de Paris, j'ai pu aussi me frotter à des répertoires un peu plus classiques.
On passe de l'un à l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie les uns ou les autres.
Non, bien sûr. Puis après, j'ai rechanté avec Microcosmos dans d'autres occasions, beaucoup plus tard.
Alors, une des œuvres que vous avez sûrement interprétées avec le Jeune Chœur de Paris, c'est Requiem Aeternam.
Oui, je vous fais écouter ce disque-là. Voilà, depuis ce matin, je vous ai fait écouter pas mal de choses. Mais là, c'est un disque auquel j'ai participé. Et donc, c'est une superbe œuvre de Herbert Howells, qui est un compositeur... anglais.
Et vous avez participé en tant que chanteur?
En tant que chanteur, et c'est Laurent Sekilbé qui dirige un disque qui n'est jamais sorti dans le commerce, donc voilà, c'est inédit, je ne sais même pas si on a le droit d'ailleurs, mais bon, on ne dira à personne, et si Laurent Sekilbé nous écoute, j'espère qu'elle me pardonnera. En tout cas, ça, c'est une œuvre formidable que Herbert Howells a écrit après le décès de son fils, donc il écrit un requiem après ce décès.
En voici quelques notes. Radiodiffusion Charentaise, donnez nos notes avec Geoffroy Dudouy, 93.4, 92.5. Geoffroy Dudouy, dites-nous, un requiem, c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas gay, quand même.
Ça dépend comment on voit la mort, ça dépend comment on voit sa célébration.
Le requiem est en lien avec la mort, c'est ça, hein, que vous nous dites.
Oui, il me semble. Requiem Aeternam, c'est le texte grégorien de la messe des morts, hein, qui a ensuite été décliné des milliers de fois par de moult compositeurs. Le plus célèbre étant peut-être celui de Mozart, mais Ravel s'en a écrit un. Verdi, on pourrait en égrener un certain nombre. Mais c'est dans le répertoire grégorien, c'est la messe des morts. Donc c'est l'hommage, les souvenirs qu'on, et puis l'aide aussi qu'on donne aux morts pour accéder à l'éternité.
Donc là, on a entendu un chœur mixte.
Voilà, un chœur mixte composé d'une quarantaine de chanteurs.
Donc deux voix de femmes, deux voix d'hommes.
Oui, alors dans avec des sous-divisions, parce que dans Howells, il y a quand même, c'est un organiste lui au départ, donc il, l'harmonie c'était son truc, donc souvent à quatre voix, au bout d'un moment on se dit bon, allez, j'en rajoute une. Donc dans ce requiem, il me semble qu'il y a des divisions aux voix de femmes et aux voix d'hommes de temps en temps.
Voilà, donc on peut avoir quatre voix ou plus. Reviens encore une couche, dit le compositeur, dans sa tête, et après il transmet là encore, et puis il charge à ceux qui interprètent de s'en débrouiller, c'est
oui,
ça.
Oui, alors généralement, on ne rajoute pas des voix à l'insu du compositeur. Hein. S'il en a écrit quatre, on en chante quatre. S'il en a écrit huit, on en chante huit. Mais après, si on rajoute des voix au compositeur, c'est quelque chose qu'on se permet rarement en musique écrite et classique. Oui.
Le répertoire qui vous intéresse professionnellement, à interpréter ou à écrire, il est finalement... médiéval et sacré, il est traditionnel, il est contemporain. C'est trois entrées qui sont importantes pour vous.
Oui, que ce soit dans les musiques écrites ou dans les musiques orales. Voilà, c'est toutes ces choses-là sont vraies. Et puis après, quand même avec le fil rouge qui est quand même la musique a cappella, c'est-à-dire la musique des voix seules et sans instrument. Alors là, pas forcément par choix non plus, mais par ce sont mes limites. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas instrumentiste, enfin, je fais un petit peu de piano, je ne peux pas dire que je suis instrumentiste, donc mon instrument, mon support de prédilection pour la musique, c'est le chant. Et pour des questions si bêtement économiques, chanter sans instrument, c'est aussi chanter beaucoup plus librement en termes de déplacement, en termes d'effectifs aussi. Et puis je ne sais pas si c'est la poule ou l'œuf, mais en tout cas, les répertoires vers lesquels je me suis tourné n'en nécessitent pas, ou en tout cas très peu, ou en tout cas pas souvent.
A cappella, qu'est-ce que ça veut dire ?
A cappella, c'est un mot en italien encore, hein, pour dire qu'on chante. Alors, je ne sais pas si quelqu'un pourrait un jour nous éclairer vraiment sur ce que ça veut dire a cappella, enfin, comment c'est venu là, mais a cappella c'est de chapelle, hein, de la chapelle, mais bon, a cappella ça veut dire sans accompagnement instrumental, voilà ce que ça veut dire.
Peut-être qu'à l'époque le chœur de la chapelle chantait sans instrumental.
Peut-être, je ne sais pas.
On écoute quelque chose du domaine du répertoire médiéval et sacré, avec un ensemble qui vous tient à cœur, vous le disiez, c'est Yacht, et on va écouter tout de suite Doom et Set Salvator. Sur les ondes de radio diffusion charentaise, donnez nouveau note, Geoffroy Dudouy. Yacht, qu'est-ce que c'est ?
Yacht, c'est le nom que j'ai trouvé pour le chœur d'hommes que je dirige, dans lequel je chante, qui se consacre au chant grégorien.
Et comment ça s'écrit ?
Yod, mais on prononce Yacht, nous, voilà. C'est un mot hébreu, a priori, qui veut dire 10, le nombre qu'on est. Et puis, comme tous les mots hébreux, hein, généralement, ils ont... ils sont polysémiques. Donc bah, Yot, c'est aussi la main, c'est la main de Dieu, sous-entendu aussi. Et donc c'est aussi le symbole de la transmission, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous tombe dessus et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et donc je trouvais que c'était pas mal comme nom pour le répertoire qu'on essaye de défendre et faire connaître.
Alors ce répertoire, c'est le chant grégorien, c'est ça?
Oui, alors là c'est un répertoire un peu plus tardif qu'on vient d'entendre, c'est le 12e, donc c'est 4 siècles après le chant grégorien, mais ça en a tout à fait les racines. Et puis c'est un extrait de pièces polyphoniques du Codex Celestinus, donc qui est le fameux livre de Saint-Jacques, qui est...
En lien avec le pèlerinage.
Absolument, voilà, qui est en dépôt, si je puis dire, qui est visible à Saint-Jacques de Compostelle, dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle.
Et vous dites, c'est le codex
Calixtinus, parce qu'il y avait un pape Calixte à qui on a fait porter le chapeau de ce manuscrit, alors qu'il en est dédicataire certainement, mais certainement pas l'auteur.
Il a écrit le prologue, en tout cas, je crois. Hein,
oui, oui.
Comment ça fonctionne, ce chant-là? On a plusieurs voix qui chantent toujours ensemble, les unes après les autres.
Oui, alors sur le début de l'extrait qu'on a entendu, c'est un organum. Donc un organum, c'est quand les chanteurs chantent à voix parallèle sur différentes hauteurs. Voilà. Ça s'appelle un organum parce que ça fait un effet d'orgue, tout simplement. Hein. Voilà. A cappella, mais voilà, ça fait un effet un peu instrumental.
On copie l'instrument, alors?
Oui, peut-être qu'il y a de ça. En tout cas, je ne sais pas si c'était l'intention des chanteurs à l'époque, mais en tout cas, il y a cet effet massif de chanter les harmoniques naturelles du son qui fait que...
Les harmoniques naturelles, oulala, vous nous en dites.
Oh oui, bon, oui, on pourrait passer des heures à parler de tout ça, mais en tout cas, quand un son de la voix est émis, il n'émet pas qu'une seule fréquence, il en émet plusieurs, ça c'est l'acoustique, c'est la physique.
La voix parlée aussi.
Et la voix parlée, de toute façon, tout son naturel émet des harmoniques, hein, qu'on s'en rende compte ou pas. Et ces harmoniques sont renforcées par les acoustiques romanes généralement, et c'est ça qui certainement a donné des idées aux contemporains de l'époque, de dire mais si on chantait la note qu'on entend si fort siffler, qu'est-ce que ça ferait? Et voilà ce que ça fait.
Donc avec des intervalles particuliers?
Oui, bah, la quinte et l'octave particulièrement, qui sont les harmoniques qu'on entend le plus facilement.
Alors la quinte, c'est un intervalle de 5 notes, c'est ça?
Voilà.
Un exemple do sol.
Voilà, voilà.
Sol,
voilà.
Et l'octave?
Et l'octave, bah, dodo, hein, on ne peut pas se tromper. L'octave, c'est facile à reconnaître, c'est la différence qu'il y a entre la voix d'homme et la voix de femme quand elles chantent la même note.
Par exemple.
Par exemple.
Et c'est un groupe d'hommes ici?
Oui, tout à fait. Oui. Alors, moi, j'avais commencé à faire des concerts quand je suis revenu en Charente là, ces dernières années, enfin il y a 15 ans maintenant, à faire des concerts seuls dans les églises romanes. Et puis pour enregistrer mon premier disque en 2011, je me suis dit quand même, ça serait quand même pas mal que j'ai quelques bourdons et puis quelques voix d'hommes qui me soutiennent. Et c'est comme ça que le groupe est né. Voilà.
Avoir le bourdon, ça ne veut pas dire avoir le spleen.
Non. Le bourdon, c'est un terme technique aussi pour dire une note tenue qui sert de fondation au chant. Voilà.
D'accord. Comment il est constitué? Je veux dire, qui vous avez recruté pour constituer ce groupe?
Des amis. Des amis exclusivement. Moi, j'ai pas envie de chanter avec des gens que je connais pas, qui peuvent devenir des amis, mais je n'ai pas fait de recrutement, j'ai pas fait d'audition et tout ça. Je l'ai fait seulement avec des gens que je savais intéressés à chanter ce répertoire, dont je connaissais déjà, si ce n'est les compétences, en tout cas les qualités vocales. Et puis les qualités humaines aussi, pour que mon autorité puisse être souple et tranquille par rapport à ce que j'avais besoin de demander. Et puis avec des gens souples dans leur tête aussi pour travailler, chanter, et pas me retrouver à devoir faire le chef d'entreprise. Quoi. Voilà.
Une main de fer dans un gant de velours?
Bah justement, pour que tout soit de velours et qu'il n'y ait rien qui ait besoin d'être de fer. Et c'est pour ça que... Dans mes diverses activités professionnelles, j'ai pu voir aussi que quand on n'est pas entre amis, ça ne veut pas dire que c'est pas cordial, mais dans un chœur, quand les gens ne se connaissent pas entre eux ou ne connaissent même pas le prénom de leur voisin et chantent ensemble, c'est pas que ça fait forcément la mauvaise musique, mais il manque quelque chose, à mon avis, du domaine d'une convivialité, d'une confiance intime, quoi. Que l'amitié permet. Et je pense que l'amitié, ça s'entend dans un groupe.
C'est le cœur avec ou sans H, alors?
Oui, voilà, c'est ça, il y a un peu de ça. Bon, après, évidemment, plus on est de très haut niveau, plus on peut se passer de cette intimité-là, parce que, j'ai envie de dire, la technique fait la différence. Mais en tout cas, moi, j'avais envie, aussi pour des questions de qualité de vie, hein, au travail, de partager ça avec des musiciens de toujours, des amis de toujours, ou des amis récents, mais en tout cas, des gens avec qui je savais que ça allait coller tout de suite, sans tergiverser.
Et ce groupe existe toujours ?
Bien sûr, bien sûr.
Ils sont toujours vos amis ?
Ah ben oui, oui, plus que jamais. Oui.
C'est que le challenge a été relevé et gagné,
tout à,
alors.
Tout à fait, tout à fait.
Si je vous dis qu'un autre groupe s'appelle Mélusine, ça vous parle forcément ?
Ah
ça.
Bah oui, bien sûr. Oui.
Alors Mélusine, pour moi c'est une fée.
Ah mais tout à fait, qui n'est pas loin d'ici d'ailleurs, dans le pays de Lusignan. Mais là, Mélusine, en l'occurrence, c'est le nom qu'on choisit de prendre trois chanteurs dans les années 70 pour faire un groupe de folk, revival, enfin comme on l'appelle comme on veut, de chansons traditionnelles. Et donc qui se sont aussi évertués un peu dans la veine de Malicorne, même si c'est bon, moi j'ai trouvé très différent, mais... En tout cas, à cette époque-là, il y a eu un regain d'intérêt pour les répertoires traditionnels populaires de tradition orale. Et donc, Mélusine a fait partie de ces groupes, et avec le choix de rendre polyphonique ces répertoires traditionnels qu'ils sont, pour ainsi dire, jamais en langue francophone. Et bah, ça a été un de mes coups de cœur aussi dans mes débuts de voir une autre façon de faire de la polyphonie, pas forcément savante, pas forcément écrite, et qui m'a beaucoup... beaucoup ému et puis beaucoup inspiré aussi pour la suite.
Alors la polyphonie, ça veut dire qu'on chante plusieurs mélodies ensemble.
Voilà, qu'on chante plusieurs mélodies ensemble. Pour Mélusine, c'est particulièrement vrai parce que les voix inventées au-dessus ou en dessous de la polyphonie, de la mélodie traditionnelle, sont vraiment des mélodies en tant que telles. Donc la polyphonie est si bien écrite que chacune des voix est très intéressante à écouter.
Voilà. Chacune est une mélodie en soi.
Voilà.
Ou une monodie alors.
Oui.
Et quand on met ensemble, ça devient une polyphonie.
Voilà.
C'est ça.
Polyphonie, c'est chanter à plusieurs voix. Plusieurs voix différentes.
D'accord. Et le titre de la chanson que vous venez de me faire entendre, c'est ?
Alors, c'est la Péronnelle, donc une chanson qu'on trouve dès le 15e siècle dans les manuscrits, et dont là, la version a été collectée, je ne saurais vous dire où. Mais voilà, une belle histoire traditionnelle racontée en polyphonie par Mélusine.
Et alors, voici donc Mélusine qui nous interprète la Péronnelle.
À vous poivez la Péronnelle que les soldats ont enlevé, que les soldats ont enlevé, ils l'ont habillé comme un page. C'est en Dauphiné, c'est pour passer en Dauphiné. Elle avait trois millions de frères.
La Péronnelle, quelle aventure pour la Péronnelle! Donnez-nous vos notes, c'est sur RRRDDDCCCC. Alors là, on est dans un autre domaine, on n'est plus dans le chant grégorien, on n'est plus dans le chant sacré, c'est le chant traditionnel, c'est encore une transmission, c'est l'évolution de la monodie à la polyphonie, nous disiez-vous. C'est une drôle d'aventure pour cette Péronnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une Péronnelle alors ?
Ah ben la Péronnelle, c'est un nom plutôt péjoratif au Moyen-Âge, hein, pour une fille un peu, soit un peu sotte, soit un peu vilaine, quoi. Mais là, c'est le prénom d'une femme qui s'échappe avec les hommes qu'elle a choisis. Voilà. Et je dis bien les. Voilà. Donc dans l'histoire, c'est assez croquignolesque. Et puis oui, Mélusine, c'est un groupe qui m'a beaucoup porté. Malheureusement, on a eu le décès de deux de ses chanteurs récemment. D'abord Jean-François Duterte il y a quelques années, et puis il y a bientôt un an, Jean-Loup Bally. Je parle d'eux avec amitié parce qu'on, avec mes camarades de Tartine de Clou dont on va parler juste après là, on les a rencontrés. Ils ont été un peu pas nos parrains, mais en tout cas ils ont été assez émus de voir que des petits jeunes dont ils pourraient être les parents en fait, étaient retombés sur leur disque des années 70 et on avait fait certaines de leurs chansons. Partie intégrante de leur répertoire, et puis que nous on traçait un sillon, certes un peu différent, mais quand même dans cette veine et dans ce choix de rendre polyphonique le répertoire traditionnel. Donc c'est un groupe qui a beaucoup compté pour nous musicalement et puis humainement, parce qu'on a fini par rencontrer ces chanteurs et voilà qu'on trouve qu'ils ont une démarche là aussi peut-être pas originale mais très singulière à l'époque. Et on trouve qu'encore aujourd'hui, elle vaut.
Faire avec les autres, mais pas forcément toujours comme les autres, c'est ça ? Amener sa pierre à l'édifice.
Oui, amener sa pierre à l'édifice. Alors, c'est pas forcément pour le goût de tout transformer, mais c'est parce que nous, on n'a pas baigné dans nos oreilles dans les mêmes choses exactement que ce trio à l'époque. Voilà, leurs 20 ans à eux n'étaient pas les nôtres. Et puis, nous, on essaye de continuer à faire connaître ces répertoires aussi. Toujours cette question de qu'est-ce que c'est ces dizaines de milliers de chansons collectées depuis bientôt deux siècles là, que tout le monde finit d'ignorer en se rappelant seulement de la Clairefontaine et du petit navire quoi. Qu'on apprend plus à l'école d'ailleurs, mais bon, qu'on apprenait à l'école encore il y a quelques temps.
Ou dans les familles,
voilà. Et donc là, on a des répertoires fantastiques, enfin vraiment superbes. Une intelligence littéraire, même si elle n'est pas oralité, qui est vraiment superbe. Et donc, nous, on trouve que ça vaut le coup de le faire connaître et de le défendre, et de le faire entendre dès qu'on peut.
Et vous le faites aussi connaître, vous avez dit, avec tartine de clou.
Voilà, tartine. Oula,
ça va piquer, ça, non ? Ça
peut piquer, une tartine de clou. On essaie que les textes piquent un peu, parce qu'on se rend compte que des textes qu'on s'entend, des fois, peuvent réveiller chez nous des choses intéressantes.
Alors, une table, trois chanteurs qui sont assis autour. A cappella, je reprends des termes que vous avez utilisés tout à l'heure, avec un bourdon.
Oui.
Et puis finalement, c'est pas vraiment un concert, alors c'est un partage.
Oui, c'est en fait nous quand on a commencé à chanter en concert, bon ça fait 20 ans maintenant, on s'est dit que c'est une musique qui pouvait pas être frontale, enfin on se voyait pas comme des glandus sur scène pour chanter ces chansons-là sans instrument, enfin on trouvait que ça mettait une distance avec le public qui était pas satisfaisante pour ce répertoire et avec notre façon de chanter. Donc on a décidé ce qui nous a allégé beaucoup la chose techniquement aussi de chanter dans le public sans amplification, sans lumière, autour d'une table, n'importe où quoi. Et c'est ce qu'on a fait depuis 20 ans maintenant.
La musique posée au milieu, la musique portée au milieu, toujours dans l'idée du partage et du portage.
Oui, et puis de la participation du public aussi. C'est-à-dire que le public est invité à chanter avec nous, pas sur toutes les chansons, mais sur des chansons à répondre notamment, où il n'est pas nécessaire de connaître la chanson à l'avance. On a vraiment ce besoin de transmettre aussi par la pratique aux gens ce qu'on a envie de leur faire connaître.
Donc c'est une autre forme de concert et de prestation finalement.
Oui.
Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. Geoffroy Dudouy, tartine de clou, tout en me promenant, vous ajoutez à tartine de clou. Ça fait, on mange en se promenant. Alors
tout en me promenant, c'est le nom de la chanson qu'on va écouter, qui a un projet spécial, puisqu'on l'a enregistré en compagnie de deux musiciens écossais, Alasdair Roberts et puis Neil McDermott, qui sont tous les deux bien célèbres dans leur coin là-bas, en Écosse et dans toute la Grande-Bretagne, et qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner sur cette chanson.
Et vous accompagnez avec quoi ? Comment ?
Guitare, violon, et on a enregistré ça dans un cinéma à Bristol, ville éminente.
Tout en me promenant le long d'une prairie, tout en me promenant le long d'une prairie, j'ai rencontré une fille qui était à mon gré. Je lui ai dit tout en riant, êtes-vous marié ? Je lui ai dit tout en riant.
Quelle histoire des promesses. De quoi ça parle cette chanson ?
Alors, cette chanson, c'est une chanson qu'on retrouve assez souvent d'une fille qu'on oblige à se marier avec l'un qui n'est pas souhaité. Et quand l'amoureux revient de guerre ou du régiment, il trouve porte close ou mariage déjà avancé, ou enfant déjà né aussi. Hein, on le retrouve dans Le Brave Marin aussi, cette fameuse chanson voilà, où clairement les parents décident à la place de la femme et puis aussi du prétendant.
Brave marin revient de guerre.
Voilà.
Je voudrais vous lire et lire aux auditeurs de RDC sur 93.4 et 92.5 une critique de ce disque et particulièrement de ce chant que j'ai trouvé. Alors c'est d'une traduction, hein, parce que ouais. Vous disiez que c'était enregistré à Bristol.
Eh oui, l'édito a été écrit par un Anglais.
Ouais. Voilà. Alors voilà ce que cet Anglais dit. « Tout en me promenant, qui est, je crois, l'équivalent d'une chanson anglaise, fait autorité dès le début du CD. » Donc ça a été enregistré. Hein. « Ce chant, soutenu par une agile guitare, constitue une excellente introduction à la puissance musicale de Tartine de Clou. » C'est beau, non? Ça fait du bien de lire ça.
Ben oui.
Alors je crois déjà un peu plus de la moitié de notre émission. Il est 11h20 sur les ondes de RDC. Et je voudrais vous dire merci et bravo pour cela et pour tout le reste. Et puis... J'allais oublier Geoffroy, Tartine de Clou, c'est aussi une BD, non?
Bien sûr, oui. Il faut savoir que Fmur, qui est lui aussi... Enfin, décidément, je me rends compte ce matin que tous les gens dont je parle sont morts. Fmur, donc un éminent dessinateur du génie des alpages, hein, et dont Tartine de Clou est l'une des BD. Et trouver un nom à un groupe, c'est toujours un moment délicat, parce que ça peut nous poursuivre pour longtemps. Et donc nous, bah oui, ça fait... On a décidé de chanter ensemble au début des années 2000, donc oui, ça fait un bout de temps qu'on traîne ensemble, et donc trouver un nom qui sonne bien, qui soit assez drôle, qui parle de nous, ça n'a pas été simple, on s'est bu quelques bouteilles avant de trouver, et puis on est finalement tombé sur ce nom-là, qui nous a plu à tous, qui amenait au moins l'interrogation pour aux gens de cette drôle de locution, et puis surtout, on a eu l'autorisation de l'auteur, de son vivant, qui nous avait envoyé une très jolie lettre pour nous dire qu'il acceptait tout à fait qu'on prenne le nom de sa BD pour notre nom de groupe, à condition qu'on ne vienne pas le réveiller le soir sous ses persiennes. Et donc, donc on a été très heureux de son autorisation, et c'est comme ça qu'on a gardé ce nom-là ad vitam, comme on dit.
En Charente, près de Champigny, il y a un lieu-dit qui s'appelle Les Clous. Alors, ce serait Tartine de Clous chante aux clous, avec une exposition de la BD
Tartine
de Clous. Très bonne idée. Je lance un appel aux autorités civiles.
Ou quand le festival de la BD fera un hommage à Fmur, peut-être qu'ils pourront penser à nous.
Alors, sur Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5, il y a, dans le cadre de cette émission, Donnez-nous vos notes, un moment... je vais dire particulier, singulier, je reprends votre terme, c'est le moment où l'artiste invité ou les artistes invités nous interprètent en direct une chanson. Et vous allez nous parler d'une chanson, déjà le titre, Les Tristes Noces, hein, c'était une vieille chanson de chez nous, c'est ça? C'est une chanson qui évoque donc des souvenirs, une nostalgie, peut-être une pointe d'humour. Les vieilles chansons françaises disent beaucoup avec peu de mots. Il y a une poésie minimaliste, en tout cas c'est comme ça que je la décris, qui est faite de tableaux très vivants et puis d'une bonne dose d'ironie. C'est indispensable. Faire avec sérieux sans se prendre au sérieux, c'est une belle formule. J'entends à nouveau dans ma tête l'interprétation de Malicorne de cette chanson-là. Vous parliez de ce groupe tout à l'heure. Et même celle très différente et plus proche de nous de Guy Béard.
Oui. Tout à fait.
Guy Béard, tout le monde connaît, ou presque, je crois. Malicorne, c'est moins sûr. Malicorne, c'est un groupe, c'est ça?
Oui, Gabriel Yacoub et Malicorne, ils ont fait quelques chansons qui sont restées assez célèbres quand même, comme Marion les Roses, par exemple. Voilà, un petit chef d'œuvre a cappella, lui aussi. Et après, ils se sont tournés un peu plus vers le rock. C'est aux mêmes époques que Trianne aussi, de tous ces groupes-là.
Malicorne, ils vont un jour donner un concert en Bretagne et ils passent dans un village qui s'appelle Malicorne-sur-Sarthe. Et le nom leur parle. Et ça y est, c'est comme ça qu'ils ont trouvé le nom de leur groupe, les fondateurs Yacoub, le couple Yacoub dont vous parliez tout à l'heure. Et puis pendant 10 ans et plus, ils colporteront ici et là un style particulier de musique avec talent. Ça, c'est moi qui le dis, mais je défends absolument cet avis par rapport à Malicorne. Les Tristes Noces, pardon, c'est une ballade traditionnelle originaire de Franche-Comté, mais qui a été reprise dans plusieurs endroits, dont la Bretagne et le Poitou, peut-être avec différents titres. Ce sont des amours contrariés, pas de chance encore une fois, et leur tragique épilogue sur le théâtre des noces où le galant était promis à une autre, mais bon, c'était avant. Aujourd'hui, rien n'est plus pareil, bien sûr, ça n'arrive plus jamais. S'il était besoin de justifier le titre de cette émission, Donnez-nous vos notes, bien voilà l'occasion toute donnée, puisque Geoffroy Dudouis a gentiment accepté en direct de nous interpréter Les Tristes Noces.
Voilà, donc c'est pas la version de Guy Béard, ni la version de Malicorne, c'est l'autre, puisque voilà, Les Tristes Noces, c'est vraiment le titre générique de cette histoire et qui a été décliné de milliers de façons différentes à travers toute la France et même au Québec, hein, pour le moins. Et donc là, la version que je vous chante, c'est une version qui a été collectée a priori dans la Nièvre en 1817 et qu'on retrouve dans le Achimilien, donc le fameux collectage des chansons populaires de la Nièvre qui est paru en 1906 et que moi j'ai connu grâce à l'interprétation et l'enregistrement de Sylvie Berger, voilà, une chanteuse d'aujourd'hui qui a gravé sur le disque Chant d'Auvergne cette chanson.
Alors Geoffroy Dudouis, s'il vous plaît, donnez-nous vos notes en direct. Merci beaucoup Geoffroy et bravo encore. Nous vous écoutons pour Les Tristes Noces.
J'ai fait l'amour 7 ans, chantons le rossignolet. J'ai fait l'amour 7 ans, 7 ans sans rien en dire. Au bout de 7 années, chantons le rossignolet. Au bout de 7 années, le galant se marie. Je me marie lundi, chantons le rossignolet. Je me marie lundi, je t'invite à mes noces. Je n'irai pas à tes noces, chantons le rossignolet. Je n'irai pas à tes noces, mais j'irai voir les danses. Si tu viens voir les danses, chantons le rossignolet. Si tu viens voir les danses, faut te faire un peu propre. La belle n'a pas manqué, chantons le rossignolet. La belle n'a pas manqué, se fit couper 3 robes. À toute danse qu'elle dansait, chantons le rossignolet. À toute danse qu'elle dansait, la belle changeait de robe. N'eût pas changé 3 fois, chantons le rossignolet. N'eût pas chanté 3 fois, la belle est tombée morte. Tous les gens se disaient, chantons le rossignolet. Tous les gens se disaient, et la triste noce. La mariée répond, chantons le rossignolet. La mariée répond, moi je n'en suis pas la cause. Pourquoi m'épousait-il? Chantons le rossignolet. Pourquoi m'épousait-il s'il en aimait une autre?
Merci beaucoup, Geoffroy Dudouis. Je regrette que les auditeurs ne puissent pas vous voir chanter. Il y a eu quelque chose avant le chant. Vous avez sorti un instrument particulier qui s'appelle un diapason. Oui. Pour trouver la note, j'imagine, c'est ça?
Mais oui, pour me donner le la, comme on dit.
Voilà, et puis trouver la note de départ du chant, que ce soit là ou autre chose, bien sûr. Et ensuite, la posture que vous avez chanté assis, je le précise, pour tout le monde, mais avec peut-être une attitude qui vous permet une projection, qui vous permet une respiration. C'est assis au hasard ou il y a une position particulière?
Moi, j'aime bien chanter assis, en fait, hein, parce que c'est vrai que ça fait partie aussi des postulats qu'on ne chante bien que debout. Ça dépend pourquoi faire, ça dépend à combien on est, ça dépend dans quel lieu aussi. Et en fait, moi je me rends compte que je chante pas plus mal assis, parce qu'on a un meilleur rapport à son poids, je trouve, par exemple. Un meilleur rapport à la détente aussi. Enfin, en tout cas, pour ce qui est de mon expérience. Mais en effet, ça veut dire que quand on est assis, il faut trouver une tonicité, une façon de projeter le son qui est un peu différente. Bon, et puis ici, dans un studio, face à un micro, un peu seul au monde, c'est un exercice particulier.
Absolument, mais seul au monde avec beaucoup de gens qui vous écoutent dans 11 départements ou plus.
Fiche.
Sur 13.4 pardon, et 92.5 sur les ondes de Radio Diffusion Charentaise dans le cadre de l'émission Donnez-nous vos notes. On retourne vers des notes données à plusieurs avec le groupe dont vous avez parlé tout à l'heure, Yacht, et avec une œuvre qui s'appelle Tolite Portas, c'est ça ?
Voilà, là, c'est un graduel que j'ai enregistré sur mon premier disque.
Voilà, attendez, un graduel.
Un graduel, c'est une pièce de la messe qu'on chante avant de réciter le psaume. Hein. Bon, c'est vrai que ça parle plus forcément à une grande majorité de gens, mais voilà, c'est une pièce qu'on chante à l'office, à la messe. Et puis, c'est un chant donc, que j'ai enregistré sur mon premier disque avec le groupe Yod, qui me fait de très beaux bourdons, et puis qui permet de faire entendre ma voix dans un autre registre musical, mais un autre registre vocal aussi, avec cette musique sacrée.
Et ce chant-là, avant d'interpréter, j'imagine qu'on le répète, qu'on l'étudie, qu'on l'apprend, qu'on...
Oh oui.
Comment ça se passe ? Yacht, par exemple.
Là, sur ces pièces-là, le chœur fait simplement des bourdons, donc c'est un peu de travail pour que ça soit calé, que ça soit juste.
Je me permets de dire que, quand vous dites simplement, c'est une manière de parler.
Oui, simplement. En tout cas, ça ne demande pas des années de travail, quoi. Ça demande quelques heures de répétition, quelques journées, si on veut, au tout début, mais maintenant, on a l'habitude, donc c'est plutôt quelques heures. Mais pour une pièce comme celle-ci, avant de l'enregistrer, j'ai travaillé dessus... et avec beaucoup de conseils divers et variés, je dirais 3-4 ans avant de me permettre de l'enregistrer.
On revient encore à l'échange et au partage, même à travers des intentions d'interprétation, c'est ça ?
Oui, et puis quand même les conseils de maîtres aussi qui l'ont chanté avec moi, en ayant écouté aussi, pourquoi pas, des gens qui l'ont chanté avant moi aussi, hein, pour voir à quoi je voulais ressembler ou pas.
Et les traces de l'avance, c'est des enregistrements, c'est des partitions, comment ça se passe ?
Oui, pour le chant grégorien, on a tout le corpus manuscrit, hein, dès le 8e siècle, et puis toutes les notations carrées qu'on suivit, plus la restitution solémienne du 19e. Enfin, on ne manque pas de sources, après, on manque d'interprètes capables de faire.
C'est un appel, ça ?
Oui, non, enfin, je ne sais pas si c'est un appel. En tout cas, c'est le constat que je fais, que des gens qui pratiquent le chant grégorien, il y en a très peu. Il y en a très peu dans l'église et il y en a peut-être encore moins à l'extérieur.
Et par rapport au chant grégorien ou d'autres, vous utilisez des arrangements, vous disiez, qu'est-ce que c'est un arrangement ?
Un arrangement, c'est quand on rajoute quelque chose qui, a priori, n'est pas écrit. Donc, pour les bourdons, par exemple, en chant grégorien, il y a plusieurs écoles, il y en a qui pensent que c'est formellement interdit, d'autres qui pensent que ça se faisait certainement à l'époque, d'autres qui pensent qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, pas sur tous les répertoires, pas sur toutes les pièces, pas sur tous les modes. Donc là, il y a vraiment quantité d'écoles et d'avis. Mais en effet, le bourdon que nous on a choisi n'est pas écrit sur la partition.
Donc il est inventé, il est préparé avant quand même.
Il est préparé avant, bien sûr. On l'a pas fait au hasard.
C'est pas d'improvisation. Alors on écoute ce que ça donne. Yacht avec Tolite Portas. Nous sommes sur Radio Diffusion Charentaise pour l'émission Donnez-nous vos notes. Et nous recevons Geoffroy Dudouis qui vient de nous faire entendre un extrait de Tolite Portas de Yacht. Et vous nous parliez, Geoffroy, des moments de préparation, des moments de répétition. Il y a d'autres moments de formation que des répétitions, des stages, des cours donnés, suivis, etc.
La formation, il y en a toujours. Enfin, en tout cas, moi, je ne chante pas le chant grégorien seulement tout seul ou avec ce groupe. Je chante avec d'autres groupes aussi. Donc, il y a toujours des échanges avec des collègues ou encore avec des maîtres aussi. Je chante notamment avec les chants du Toronnet, dirigés par Damien Pablo. Et donc, au contact de Damien Pablo, j'apprends encore beaucoup, beaucoup de choses. Donc, puisqu'il m'a précédé sur ce chemin, qu'il a fait une trajectoire très importante. Et donc, en travaillant avec d'autres groupes, je continue à me former, ça c'est certain. Et puis moi aussi, en transmettant, je continue à me former, puisque ça me fait me poser des questions sur comment transmettre et qu'est-ce qui est le plus important à faire chanter aux autres. Donc je fais des stages en direction des amateurs tout au long de l'année, là depuis 15 ans aussi. Donc ça me permet aussi de questionner le répertoire, d'approfondir ma connaissance tout en la transmettant.
Alors comment ça se passe une journée de chanteur, de compositeur, de chef de chœur, d'enseignant, puisque Geoffroy, vous êtes un peu tout ça, ou même beaucoup tout ça?
Mes journées se passent un peu trop vite, parce que justement, voilà, c'est certainement mon défaut, c'est que je ne me consacre pas à une seule chose, je suis un peu papillon, disons, donc si j'étais un chanteur sérieux, je commencerais ma journée par chanter, je la continuerai par peut-être un peu de lecture avant de rechanter, et puis ensuite faire une répétition l'après-midi, et puis un concert le soir. Voilà, ce serait la journée idéale du chanteur qui n'aurait que ça à faire.
Geoffroy Dudouis, le chanteur papillon pas sérieux, vous vous rendez compte ce qui va rester de cette émission?
Non, papillon pas sérieux, ce que je veux dire, c'est que c'est souvent vu comme quelque chose de pas sérieux de papillonner, en fait, c'est surtout ça. Et particulièrement pour un artiste, où en gros, on pense qu'un vrai artiste, c'est quelqu'un qui se consacre à une chose et à rien d'autre. Et que dès qu'on papillonne, on passe pour quelqu'un d'un peu trop hédoniste, peut-être.
Vous êtes bien sûr RDC pour Donnez-nous vos notes. Geoffroy Dudouis est l'invité du jour, et à propos de cette émission et de son parcours, voici le moment du jeu. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous pourrez proposer vos réponses à la question que je vais poser dans quelques minutes au 05 45 95 09 87. 05 45 95 09 87. Voici la question. Tout à l'heure, Geoffroy nous a dit qu'il participait, qu'il était membre d'un groupe qui s'appelle Tartine 2, je ne sais plus quoi. Alors, chers auditeurs, vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour trouver le nom complet du groupe Tartine 2. Je crois qu'on disait tout à l'heure, ça pique un peu. 05 45 95 09 87, Radio Diffusion Charentaise 93.4 92.5, 5 minutes pour trouver la réponse. Tartine de quelque chose. Quoi gagner? Un CD, puis une émission à découvrir de l'intérieur, le déroulement d'une prochaine émission. Sans plus attendre, Geoffroy, nous passons au 12e chant déjà, oui, que vous nous proposez. Oui. Et le titre, c'est Fanfarnetta. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Fanfarnetta, c'est le nom de l'héroïne de la chanson. C'est la Pernette, hein, en français, hein, la chanson de la Pernette, là chantée en occitan par un groupe aussi qui a été certainement un des plus beaux concerts que j'ai entendu dans ma vie. C'était en 2008 au festival de Parthenay, le Cours de la Plane, avec son chef Manu Théron. Alors là aussi, le groupe n'est pas décédé, mais il est arrêté, c'est-à-dire qu'il a mis fin à ses activités là cet automne. Après 20 ans de bons et loyaux services, et surtout de tournées internationales, et puis de très très beaux disques. Et puis j'ai eu la chance, avec mes amis de Tartine 2, de rencontrer Manu Théron dans un festival en Bretagne, et il nous a proposé de faire un projet avec lui sur la poésie occitane, écrite par Roland Pécou, un poète occitan assez superbe. Et donc on a enregistré avec lui un disque en Corse il y a une petite année, et on espère qu'il va sortir cette année.
Alors on écoute Fanfarnetta par le Cuore de la Plana.
Fanfarnetta si levo, tresulo davanciù. Mentre pensa culunietta, ta la 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 la, ta la 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 la, l'andante dirà. Mentre pensa culunietta,
un pichuntu, emes un pichuntu, emes un pichuntu. Duele tu que dirá. La 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 la.
Bien, on entend bien la fanfare, hein, finalement. La fanfare, elle est vocale ici.
Oui.
Et la fanfare, c'est un objet de communication aussi. Alors, qui dit
Absolument.
Communication par rapport à vous, Geoffroy, dit moyen de vous joindre. Alors, on a entendu que vous avez enregistré des disques avec
oui.
différents ensembles. Il y a un site internet qui existe là ?
Oh, il y en a plusieurs, mais j'ai envie de dire, pour ceux qui savent se servir d'internet, eh ben, il faut taper Geoffroy Dudouis et puis ils verront bien, ils tomberont sur mon site. Sur le Bandcamp où on peut écouter mes disques, sur le site où on peut les acheter, enfin bref.
Il y a une chaîne YouTube aussi.
Il y a une chaîne YouTube, voilà. Si on tape Geoffroy Dudouis, normalement, on tombe sur moi.
Une page Facebook.
Je suis singulier pour ça aussi.
Évidemment, les concerts, avec différents ensembles.
Pour les concerts, pour les stages aussi. Voilà, toutes les informations se trouvent assez facilement. On est visible.
Et c'est toujours l'idée du partage hein, qui guide votre vie de musicien, je crois, avoir compris l'idée du partage.
Oui, le partage, le plaisir, voilà, de faire quelque chose utile aux gens et pas trop mauvais pour la planète.
Alors un partage à partir de création, de composition de Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen, une compositrice, poétesse, abbesse.
Oh oui, c'est un personnage assez extraordinaire, Hildegard. Donc c'est un des grands personnages de l'Église médiévale, hein, qui revient en odeur de sainteté ce dernier demi-siècle, hein, et qui a été approché pas seulement par les croyants, mais aussi par toute une fange musicale et autres, voilà, en quête de spiritualité. Et bon, je le dis souvent sur le ton de l'humour, mais voilà, Hildegard est très bien connu aussi dans les biocopes pour tous ces élixirs et toutes ces plantes vendues très cher. Voilà, parce qu'elle a aussi fourni de nombreux documents de ses visions, mais aussi de ses recherches en herboristerie pour soigner les maladies, etc. Donc voilà, c'était un personnage tout à fait incroyable dont l'Église a mis du temps à reconnaître la grandeur, puisqu'elle a été promue par Benoît XVI docteur de l'Église il y a à peine 10 ans,
oui.
Très récemment, oui. Et c'est seulement la cinquième femme de l'histoire de la chrétienté à être promue docteur, donc ça veut dire que c'est quelque chose de très important voilà. Et en effet, c'est certainement l'une, si ce n'est la première, l'une des premières femmes compositrices dont on a le nom et qui a composé texte et musique de ses œuvres.
Ce qui était très rare,
oui.
Alléluia au Virga, qu'est-ce qu'il chante ?
Eh bien, c'est l'ensemble Flos d'Espina, donc un groupe que j'ai créé avec des amis, là aussi, il y a 7 ans, en 2015, et qui a enregistré son premier disque l'année dernière et qui enregistre son deuxième là, en avril prochain. Et là, c'est donc un extrait du premier disque qu'on a enregistré sur répertoire d'Hildegard.
D'accord, je crois que nous avons un gagnant notre jeu, nous l'écouterons juste après. Voici quelques notes dans un premier temps de Hildegard von Bingen, de l'Alléluia au Virga, qu'elle a écrit, paroles et musique donc.
Alléluia.
Voilà quelques notes parce que ben, je vois que le temps presse. On n'a pas envie que l'émission s'arrête. Hein, Geoffroy, je le dis comme je le pense. Sur Radio Diffusion Charentaise, donnez-nous vos notes. Tant on a plaisir à entendre toutes les notes que vous nous donnez ou que vous nous indiquez qui sont données par d'autres. Donc, Flos d'Espina qui se produit encore dans la région.
Oui,
et
qui fait des concerts très régulièrement en Charente et autour de Poitiers.
D'accord, et c'est très intéressant de les entendre bien sûr, hein, tous ces groupes dont parlait Geoffroy, et je vous le disais aussi, chers auditeurs, chers auditrices, d'aller les voir, ça me semble. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Les meilleures choses ont une fin.
Eh oui.
On est déjà à la dernière écoute que vous nous proposez. Urmas Sisak, compositeur dont vous allez nous parler, qui a écrit entre autres Dominus Vobiscum.
Oui, ben là c'est un peu le retour aux sources. Alors le hasard veut que j'ai appris seulement hier soir que ce compositeur est décédé lui aussi, et qu'il est décédé le 17 décembre, donc c'est passé un peu en dessous de mes radars, peut-être en dessous des radars de plein de gens, mais bon, c'était pas un compositeur très très connu en dehors du chant choral, mais dans le chant choral il a été beaucoup chanté ces 30 dernières années, et c'était vraiment un personnage hors norme, hors du commun, qui a écrit une musique vraiment à la fois simple et très très profonde. Voilà, c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'astronomie, à l'astrologie aussi. C'était un personnage assez fantasque et qui est décédé à seulement 62 ans là. Donc ça, voilà, j'ai eu un petit peu de peine hier soir d'apprendre ça, mais voilà, je suis consolé d'avoir pensé à lui avant et de finir la mission par une de ses pièces que je trouve vraiment à la fois si simple et si belle, et qui est un hommage pour lui, un hommage à mes débuts aussi, parce que c'est vraiment avec ce type de musique et ce compositeur que j'ai pris goût au chant choral et que ça a dirigé ma vie. Voilà, donc le voilà parti, mais je sais qu'il connaît le chemin des étoiles. Voilà.
Et voici les quelques mots qu'il écrivait. « Ma mission est d'apprendre l'harmonie de l'instrument musical de l'univers et de la faire entendre aux êtres humains. Ainsi, je ne me considère pas comme un compositeur, mais comme quelqu'un qui recueille la musique des sphères. » Belle, belle déclaration de la part d'un musicien et astronome. Quel bel axe de vie, quel beau sens donné à sa vie. Voici quelques notes de cette composition de Urmass Sisak. Et c'est ST Project, un chœur...
ST Project, c'est un chœur qui a été créé spécialement pour enregistrer ce disque formidable des années 2000.
Dominus Vobiscum. Quelle pureté dans les voix, quelle belle déclaration musicale, je trouve. Geoffroy, il est bientôt l'heure de nous séparer, mais juste avant, je voudrais féliciter Jean-Marc de Mata, qui a trouvé que le groupe dont on parlait tout à l'heure, un de ceux dans lesquels vous vous exprimez par la musique, c'est Tartine de Clou. Tartine de Clou, c'est pour ça que nous disions et je disais que ça piquait un peu. Geoffroy, il est l'heure de nous séparer. Je ne doute pas que les auditrices et les auditeurs de l'émission d'aujourd'hui et comme moi, pris beaucoup de plaisir, vraiment, à vous entendre, à vous écouter, à vous rencontrer sur les ondes de RDC, que la musique soit avec vous, oserais-je dire, même si je sais qu'elle l'est depuis longtemps, depuis toujours, alors que la musique reste avec vous, qu'elle reste aussi avec nous grâce à des passionnés dont vous êtes, des personnes qui donnent la musique, des personnes qui donnent des notes, qui donnent leurs notes, et c'est un objectif, et peut-être le premier de l'émission « Donnez-nous vos notes », dont la première était aujourd'hui, jeudi 29 décembre 2022. Ce fut une joie vraiment de vous recevoir, Geoffroy, comme premier invité, et de partager avec vous l'amour de la musique. Parce que je crois qu'il est évident dans vos paroles que c'est cet amour de la musique que vous avez, que vous prenez, que vous voulez répandre. Le mois prochain, les 4L seront avec nous. C'est un quatuor vocal qui viendra de Dordogne, un département dans lequel on peut entendre les émissions de RDC. Autre style, autre genre de musique, puisque les 4L nous ferons voguer sur la route du jazz, mais toujours la passion de la musique et de son partage. Alors nous avons rendez-vous le jeudi 26 janvier sur RDC 93.4, 92.5 avec les 4L et avec leur coach vocal, un des coachs vocaux en tout cas, qui s'appelle Renaud. Les 4L travaillent avec Renaud. Au revoir Jean-Marc, merci à toi pour ton précieux apport technique. Au revoir Geoffroy.
Au revoir et merci.
Merci de votre venue. Rappelez-vous que rien n'interdit un deuxième passage dans les studios de RDC dans quelques temps, d'autant plus que vous connaissez la route et les studios maintenant.
Avec plaisir.
Au revoir chères auditrices, chers auditeurs, merci. Donnez beaucoup de notes et puis à bientôt pour une autre émission de la série. Donnez-nous vos notes, c'était Stéphane sur RDC 93.4, 92.5. Donnez-nous vos notes. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était « Donnez-nous vos notes ». Une note, des notes. Donnez-nous des notes, des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission. Et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt, pour moi ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.